du bien-être avec Diane.
Bonjour et bienvenue à vous dans votre chronique bien-être. Je suis Diane de la chaîne YouTube Diane Expérience et chaque semaine, je vous apporte de nouvelles idées et astuces pour vous sentir le mieux possible dans votre vie. Pour moi, les expériences sont une source d'apprentissage incroyable. Et c'est pour cette raison que je vous parlerai de mes expériences au cours de cet instant ensemble, pour que vous puissiez y puiser l'inspiration et être libre d'être qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, on va se questionner sur notre rapport à la réussite. Chacun va avoir une vision et une définition très différentes. Ce qui va compter, c'est de réussir à se comprendre soi-même et pouvoir lever les blocages quand il y en a. La réussite est vraiment très personnelle, et elle n'est pas forcément importante dans tous les domaines suivant les individus. Pour certaines personnes, la réussite va être de construire une famille et d'avoir un foyer heureux. Pour d'autres, la réussite va passer par de l'entrepreneuriat et le fait de réussir à monter un business serein. Et pour d'autres, la réussite, c'est réussir à voyager le plus souvent possible, car c'est ça qui leur procure le plus de joie. Il y a donc des domaines très différents, et là ce ne sont que quelques exemples. Ensuite, il y a aussi un curseur face à la réussite. Pour quelqu'un qui monte un business, ça peut être de réussir à se rémunérer 1 200 € par mois et d'être son propre patron. Pour quelqu'un d'autre, qui, admettons, monte également un business, l'objectif peut être de générer 500 000 € de chiffre d'affaires et d'avoir une grande équipe à manager ou encore de devenir numéro 1 dans son domaine. Et là, on voit bien qu'il y a le même désir de réussite et dans le même domaine, le milieu professionnel, mais ce n'est pas du tout le même curseur. Et je tiens à dire que les deux se valent totalement. Il n'y en a pas un de mieux que l'autre. Ce qui compte réellement comme critère, c'est le bonheur et l'épanouissement. Que la situation soit en accord avec ses valeurs et son caractère, et surtout ses propres inspirations. Réussir à comprendre son rapport à la réussite, son niveau d'exigence et les domaines qui nous tiennent à cœur, c'est un bon début pour mieux se connaître et orienter ses décisions de vie. Parce que quand on a cette base, on peut aussi être plus à même d'identifier nos propres déséquilibres. Et quand je parle de déséquilibre, je pense au fait de se mettre une trop grande pression, quel que soit le domaine, de parfois se dévaloriser, ou encore de perdre la foi en ses capacités et de se retrouver bloqué dans ses émotions. Parce que oui, on peut le dire, ce n'est pas simple de réussir. Ce n'est pas simple ni émotionnellement, ni psychologiquement. Et on a tendance à l'oublier. En particulier en France, le rapport à la réussite n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis par exemple. En France, on cache le fait de gagner beaucoup d'argent, c'est un sujet un peu tabou, et les personnes qui réussissent sont parfois critiquées ou enviées. Et ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Aux États-Unis, la réussite est quelque chose de très positif, et on va prendre ces personnes-là qui réussissent comme des exemples, et on est beaucoup moins dans un discours de critique ou d'envie. En vivant en France, on fait face à tout cet inconscient et toute cette ambiance particulière autour de la réussite. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous influence dès notre enfance. C'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais je me rappelle très bien quand j'étais au collège, et c'était il n'y a pas très longtemps, il ne faisait pas très bon d'être premier de la classe. Le premier ou la première de la classe, c'est l'intello, le chouchou des profs. On colle tout de suite des étiquettes et on appuie sur la différence. Le premier de la classe est souvent critiqué. Et au contraire, les derniers, c'est un peu les gens cool, populaires. Et franchement, pendant un moment, au collège-lycée, je m'étais demandé si c'était pas mieux de moins réussir pour être plus populaire auprès des autres, et surtout moins se faire embêter ou critiquer et être plus tranquille. Donc dès notre enfance, notre rapport à la réussite est lié à ce que pensent les autres et à comment les autres nous traitent. Et parfois, on ne part pas sur des si bonnes bases que ça. Mais d'autres facteurs peuvent venir influencer notre relation à la réussite. Avez-vous déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur ? J'ai découvert ce que c'était en écoutant un podcast. Le mot « imposteur » m'intriguait beaucoup, je me demandais ce que c'était. Et j'ai découvert que le syndrome de l'imposteur pouvait être vraiment très fréquent et concerne aussi bien la vie amoureuse que professionnelle, n'importe quel domaine de la vie en fait. Et alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'avoir beaucoup de mal à reconnaître sa valeur et généralement minimiser ce que l'on fait, voire même attribuer le mérite aux autres personnes qui nous entourent. C'est également avoir la sensation d'être un imposteur, qu'on ne mérite pas la place que l'on a, et qu'on a l'impression qu'à un moment ou un autre, on va être démasqué. Le syndrome de l'imposteur peut aussi être relié à des phrases que l'on se dit, par exemple « Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ?»« Je ne le mérite pas » ou « Ce que je fais n'est pas assez bien » ou encore « Off, j'ai simplement eu de la chance ». Avec ce syndrome, on pense souvent que les autres surestiment nos capacités. Nos capacités que nous-mêmes, nous ne voyons plus ou nous n'avons jamais vues. Donc, vous avez compris que ce syndrome de l'imposteur ne nous aide pas tellement à améliorer notre rapport à la réussite. Et ce syndrome, je l'ai beaucoup ressenti lors de mes années d'études. Quand j'ai commencé en fac de sciences, j'avais la sensation d'être une grosse intrue. Un peu une imposture. Je n'étais pas spécialement passionnée par les sujets scientifiques, mais moi ce qui me plaisait vraiment, c'était les présentations orales. J'adorais présenter et vulgariser le travail. Par contre, creuser les infos scientifiques pendant des heures, c'était vraiment pas mon kiff. Ce qui était bien, c'est que les vrais scientifiques, entre guillemets, n'avaient jamais envie de parler en public, et ils étaient donc ravis que je le fasse. Donc finalement, c'était un bon compromis. Mais il n'empêche que je ne me sentais pas à ma place. Et même si je travaillais régulièrement, et que j'ai réussi à valider toutes mes années jusqu'au bac plus 4, eh bien, je m'étonnais d'être toujours là, en fait, et d'avoir validé mes années. Et c'est assez intime et inexplicable, mais je ne me sentais pas légitime, alors que ma réussite était bien là, et que c'est bien moi qui travaillais et qui passais tous ces examens. Après mes 4 années de sciences, je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose, que j'étais pas épanouie et que j'avais d'autres qualités qui demandaient à exploser. J'ai continué mes études par une 5e année en communication à Paris. Je me suis rendu compte à quel point la communication était quelque chose de fluide et de naturel pour moi. Et là, j'étais beaucoup plus à ma place que dans les laboratoires. Cependant, j'ai ressenti encore une fois, très fortement, ce syndrome de l'imposteur. Parce que je me suis retrouvée avec des personnes qui faisaient déjà de la communication, du droit ou encore de l'économie depuis 4 ans. Et moi, je débarquais avec 4 ans de sciences, totalement à l'opposé. Et j'avais encore l'impression d'être une imposture. Bien sûr, tout ça c'est vraiment du ressenti interne, car j'ai tout de suite bien pigé la communication et j'ai directement eu de très bons résultats. On pourrait donc dire que j'avais ma place, j'étais très loin d'être à la ramasse et au contraire, j'étais plutôt dans la première moitié de la classe. J'ai réussi à avoir un très bon stage de fin d'études, bref, de l'extérieur, tout va vraiment bien, mais c'est à l'intérieur que tu ne te sens pas légitime. Le fait d'en prendre conscience m'a déjà beaucoup aidé à comprendre la situation et reprendre confiance en mes capacités. Si ce thème du syndrome de l'imposteur vous intéresse, nous pourrons l'aborder dans une prochaine chronique, mais je vous propose plutôt de revenir sur le sujet de la réussite. Pendant longtemps, j'ai presque cru que la réussite n'était possible que si on ne s'y attendait pas. En fait, à force de voir des interviews de personnes qui ont réussi, qui soient célèbres, riches, reconnus dans leur domaine, j'avais l'impression qu'ils avaient tous le même discours et qu'ils disaient tous « C'est incroyable, je ne m'y attendais pas. » Je ne m'y attendais pas. Dans ma tête, j'avais fait un amalgame. J'avais l'impression qu'il fallait donc s'attendre à rien pour réussir. Et il y a du bon et du moins bon dans cette réflexion. Dans la précédente chronique sur la gratitude, on discutait du fait que la gratitude réside dans le moment présent et le fait de reconnaître toutes les richesses intérieures puis extérieures dans notre vie. Avancer en étant focalisé sur la réussite, comme l'objectif ultime, le but à absolument atteindre, peut être vraiment contre-productif car on ne profite plus du chemin. Ce qui est quand même regrettable car il représente au moins 90% du temps, le but et l'objectif final étant peut-être un petit 10%. Donc, en soi, être focalisé uniquement sur la réussite peut faire sombrer dans des idées noires car on ne voit pas le but s'approcher parce qu'on est en plein dans le chemin. Eh bien, tout ça, ça peut être très très dur. Et se contenter de la réussite sans le chemin complet, ça ne me semble pas être la solution idéale. Et ce qui me gênait dans ce genre de discours du « je ne m'attendais pas à cette réussite », c'est qu'on ne voit pas la face cachée des choses. J'avais l'impression que si tu croyais fort en ta réussite, et que tu savais que ça allait arriver un jour et que tu bossais pour, Eh bien, le fait de s'y attendre bloquait l'arrivée de cette fameuse réussite. Alors oui, ça peut peut-être paraître un peu tordu, mais je suis sûre que je n'étais pas la seule à avoir ce genre de réflexion. Finalement, j'avais l'impression que ce discours était hypocrite ou incomplet, car le chemin vers la réussite n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'artistes, d'écrivains, qui ont pendant très longtemps présenté leur travail à beaucoup de monde avant d'être reconnus. Il y a aussi certains peintres qui sont finalement encore plus reconnus ou tout simplement reconnus après leur mort. Alors là, on n'a plus qu'à espérer qu'ils profitent quand même de la scène depuis un petit nuage là-haut. Donc finalement, quand tu as bossé un max pour atteindre un idéal et une réussite, est-ce que c'est si logique à la fin dans une interview de dire que tu ne t'y attendais pas ? J'ai fini par trouver un juste milieu dans ma tête. Toutes ces réflexions m'ont beaucoup bloqué pendant un moment et ça avait obstrué ma vision de la réussite. J'étais pas au clair avec ça et ça ne me permettait pas d'être efficace et de croire en moi finalement. Donc ça a été important de démêler le vrai du faux pour trouver un juste milieu dans ma tête. Et je me suis dit qu'une attitude saine serait d'avancer, de donner le meilleur, en visant haut, mais sans faire une montagne de la réussite. De savourer le chemin, de savourer les épreuves, la résolution de problèmes, savourer chaque pas qui nous rapproche de notre idéal visé. Et en savourant chaque instant dans sa richesse, c'est peut-être comme ça que finalement, la réussite viendra taper plus rapidement que prévu à votre porte. Merci pour votre écoute, merci d'être là. Si cette chronique vous a parlé, vous a permis de nouvelles réflexions, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Sur ma chaîne YouTube Diane Expérience, ainsi que mon compte Instagram du même nom, Diane Expérience. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et me parler de votre ressenti sur cette chronique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.